9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. On a beaucoup insisté toute la semaine sur la portée symbolique d'avoir une femme première ministre. C'est oublié un peu vite que sous l'ancien régime, les femmes ont été bien plus nombreuses qu'on ne le croit à gouverner la France. L'historienne Aubrey David-Chappie consacre une biographie à Anne de France. C'est elle qui a inventé le pouvoir au féminin. Elle va nous raconter tout ça. Je recevrai ensuite Emiliano González-Toro qui se livre sur son nouvel album à un étonnant duo de ténors. Mais d'abord, le procès qui fait trembler l'art contemporain. Un sculpteur de 80 ans revendique la paternité de l'œuvre du célèbre artiste Maurizio Cattelan, dont le pape Jean-Paul II, frappé par une météorite, ou le petit Hitler, agenouillé, en habit d'enfant, en train de prier, qui s'est vendu 17 millions de dollars chez Christie's. Le verdict sera rendu le 8 juillet. Bonjour Daniel Druet.
Bonjour.
Le sculpteur qui met tout le petit monde de l'art contemporain en ébullition, c'est vous. C'est vous, en effet, qui avez de vos mains réalisé les œuvres les plus célèbres de Maurizio Cattelan, celles qui s'arrachent dans les grandes ventes aux enchères, que ce soit le pape Jean-Paul II ou Hitler enfant. Ça, tout le monde est d'accord, hein, tout le monde reconnaît que c'est vous. Hein.
Ah oui, oui, aucun problème.
Vous avez fait l'essentiel de votre carrière au musée Grévin. C'est pour ça que Maurizio Cattelan et son galeriste Emmanuel Perrotin sont venus vous chercher en 1999. Faire le pape Jean-Paul II ou Hitler, ça ne vous posait pas de problème?
Pas du tout. J'avais déjà fait le pape pour le musée Grévin. D'ailleurs, à l'époque, il m'avait reçu au Vatican. J'avais eu une audience au Vatican. J'avais été très, très, très impressionné.
J'imagine, oui.
Recevoir, être reçu par le pape au Vatican, c'est une image qui se grave dans la tête. D'ailleurs, je suis rentré 2 jours après à Paris et j'ai fait son portrait pratiquement de mémoire.
Et quand Maurizio Cattelan, après que vous lui ayez livré votre pape Jean-Paul II, l'a couché sur un tapis rouge, frappé par une météorite, ouais, qu'est-ce que ça vous a fait ?
Bah, moi, je n'étais pas au courant. Hein. Et de toute façon, moi, mon intervention s'arrête à partir du moment où le personnage sort de mon atelier.
Oui.
Après qu'il le coupe en rondelles ou qu'il fasse n'importe voilà. Quoi, ça ne me regarde plus.
Pour le pape Jean-Paul II, vous avez été payé, je crois, 17 000 euros, c'est ça, en tant que façonnier, donc.
Je suis pas très... très... familier avec les chiffres, moi, je sais plus. Hein. Ça fait 20 ans quand même. Hein.
Et oui, effectivement, vous lui avez donc livré une statue classique, type voilà. Musée Grévin. Vous ne saviez pas qu'il se retrouverait ensuite par terre sur un tapis rouge avec une météorite sur les jambes. Voilà. Quel contrat vous liez à Maurizio Cattelan et à Emmanuel Perrotin?
Aucun contrat. J'ai vendu des personnages à Cattelan et Perrotin comme je vendais des personnages au Musée Grévin. Parce que le musée Grévin, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le musée Grévin, mais c'était une manière de vivre pour moi. Parce oui. Que la sculpture, c'est très difficile à notre époque. La sculpture telle que je la conçois.
Ils doivent regretter aujourd'hui de ne pas vous avoir fait signer de contrat parce que ça leur éviterait le procès que vous êtes en train de leur faire.
Ça, c'est leur problème. Hein. Ils ont toujours voulu ignorer qu'il y avait quelqu'un qui faisait les œuvres pour Cattelan.
Pourtant, vous les avez rencontrés l'un et l'autre.
Ah ben oui.
Quand elle a été présentée dans le cadre de l'exposition Apocalypse à la Royal Academy de Londres et vendue 2 millions de dollars, là je parle du pape Jean-Paul II, oui. Frappé par une météorite, vous ne vous êtes pas plaint à l'époque. Elle est pourtant devenue mondialement célèbre, cette œuvre.
J'avais la première fois que j'ai vu le pape écrasé, c'était au Kunsthal de Bâle. C'était là d'ailleurs, on m'avait commandé pour le Kunsthal de Bâle. Et comme il ne me payait pas, j'avais été à l'époque voir le Kunsthal avec un ami qui habite Strasbourg. On dit ah bon, on va aller voir. Bon. Et alors j'ai rencontré Madeleine Chupli qui était la commissaire de l'exposition et je lui dis bah voilà. « Oh, mais on va vous payer cette semaine, machin, tout ça. » Bon, j'ai dit « J'aimerais bien voir l'œuvre quand même. Bah, »« Montez, mais vous allez être un peu surpris. » Elle me dit « Ah bon ?» On monte à l'étage supérieur et c'est là que je vois, dans une grande salle, le pape allongé par terre, machin, bon. Alors, rentré à Paris, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je porte plainte ?» Pour avoir... il a quand même coupé mon œuvre en deux sans me demander l'autorisation. Donc j'avais vu à l'époque mon avocat, on avait réfléchi, on avait dit « Oh, pff, bon, allez, on laisse courir. » Il paraît qu'il y a Perrotin m'a dit qu'il y avait d'autres boulots qui allaient venir. Bon, comme je fais ça pour vivre, hein, voilà. Et effectivement, j'ai rien fait et on m'a commandé Hitler tout de suite derrière.
Donc un Hitler enfant qui est agenouillé, voilà, on le voit de dos.
J'ai reçu un fax, à l'époque c'était des fax, de Zotti, le lieutenant de Catellane, et qui me dit, voilà, on voudrait que vous nous fassiez un petit garçon à genoux en pénitence d'environ 12 ans avec la tête d'Hitler. Voilà, c'était les consignes, tout, point final. Donc il fallait que je me débrouille avec ça. Après, bon, on m'a dit des anecdotes, des détails, mais enfin, l'essentiel, c'était un petit garçon de 12 ans à genoux, en pénitence, avec la tête d'Hitler.
Mais en même temps, comme vous le dites vous-même, ces œuvres, ensuite, vous les découvrez, ça prouve bien que ce n'est pas tout à fait votre œuvre, c'est aussi l'œuvre de... Et c'est même avant
l'œuvre,
tout.
L'œuvre de Catellane, c'est la Nonnahora.
Voilà, la Nonnahora.
Moi, c'est le pape, Jean-Paul II.
Voilà, vous avez réalisé le pape. Voilà. La Nonnahora, c'est allusion à l'heure de la mort du Christ. Hein, c'est le pape quand il est frappé par une météorite.
Moi, je revendique la paternité des œuvres qui sortent de mon atelier. Je vous dis, je ne savais pas qu'il allait le couper en deux. Hein. Je l'ai découvert après.
Voilà. Et vous en avez fait 9 en tout, à chaque fois, en tant qu'exécutant, donc payé au projet.
Absolument. Je vendais des personnages, lui, comme au musée Grévin. Voilà. Sauf que j'avais plus de liberté qu'au musée Grévin. C'était plus amusant pour moi.
On fait une pause, Daniel Douet. On se retrouve juste après. J'ai encore plein de questions à vous poser.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Daniel Druet, c'est le sculpteur qui a réalisé les personnages figurant dans les œuvres du célèbre artiste contemporain Maurizio Cattelan. C'est lui qui fait un procès à Cattelan et à son marchand Emmanuel Perrotin. Procès qui, je l'ai dit, fait trembler le petit monde de l'art contemporain. Est-ce que vous en êtes conscient que vous faites peur à tout le monde ? Il y avait énormément de gens au procès. Hein. Vous avez été surpris ?
Je me rends compte que ce n'est pas le petit monde de l'art contemporain, c'est le grand monde de l'art contemporain. Moi, je suis mon avocat qui plaide depuis 30 ans ces histoires de propriété artistique et intellectuelle. Il n'avait jamais vu ça. En général, il n'y a personne ou 2-3 personnes. Mais là, il y a une centaine de personnes au procès. C'est vraiment incroyable.
Le verdict sera rendu le 8 juillet et une tribune, presque une pétition, hein, d'ores et déjà est parue dans Le Monde, signée par 65 personnalités du monde de l'art, artistes, directeurs d'institutions, galeristes, qui déclarent que votre quête de reconnaissance, je les cite, ouvre la porte à la disqualification de l'art conceptuel.
Ça, c'est pas mon problème.
Quête de reconnaissance.
Moi je revendique la paternité, la création de personnages de cirque que j'ai fait pour Maurizio Cattelan. Depuis le début, c'est-à-dire depuis 1999, je demande dans toute ma correspondance, que ce soit avec Cattelan, avec Perrotin, avec la galerie Marianne Goodman, toutes les galeries pour qui j'ai travaillé et qui finançaient les œuvres, j'ai toujours demandé que mon nom figure en tant que réalisateur-sculpteur de l'œuvre. Après, c'est plus mon nom. Ce qu'il en fait, c'est plus moi. Mais je revendiquais la fabrication des œuvres, la paternité des œuvres.
Voilà. Ce qui est beaucoup.
Et ils m'ont jamais donné droit à mes demandes. Ils n'ont jamais fait droit à mes demandes. Et jamais j'ai été nommé nulle part. Je n'ai jamais été invité à un vernissage. Je n'ai jamais été nommé dans la presse, rien, jamais.
C'est logique, puisque c'est l'art contemporain, en tout cas l'art conceptuel, c'est un art de l'idée. Donc, ils considèrent que c'est une œuvre de l'esprit. Ce que vous avez pu faire avec vos mains ne compte pas. Au fond, ce qui compte, c'est ce que Maurizio Cattelan en a fait avec son esprit.
Oui, enfin bon, quand il expose le petit Hitler qui vend 17 millions de dollars, il vend plus qu'une idée, là. Il vend un personnage dont on peut faire le tour et qu'on peut regarder dans les yeux.
Quand vous réclamez aujourd'hui 4,5 millions hein, de dommages et intérêts pour violation de votre droit d'auteur et pour contrefaçon, pourquoi contrefaçon ?
Alors contrefaçon parce que dans deux exemples, le pape qui a été exposé à la Monnaie de Paris, je suis allé voir l'exposition parce que je n'avais jamais été invité au vernissage ni à quoi que ce soit. Je suis allé voir l'expo. Et j'ai vu que, incontestablement, ce n'est pas le pape que j'avais fait. Il a été copié. Donc, dans le catalogue, il y avait une image où on voyait quelqu'un qui surmoulait le corps. Et un jour, l'avocat de Perrotin m'a dit « Oui, il y a une société, il y a un sculpteur qui est bien, bien meilleur que Druet, c'est un Carrare, la société Thor Art, je crois. » Je suis allé voir, en fait, c'est une société qui fait des scans. Alors, ils taillent du marbre, mais ils peuvent également scanner des portraits et le reproduire exactement, faire un moulage, couler la cire, etc. C'est une reproduction, c'est un moulage.
Donc en fait, ça n'est pas l'original de la Nona Aura qui était exposée.
C'est une copie. Par exemple, ils auraient dû me demander aussi l'autorisation. C'est quand même.
Ben non,
mais comme j'existe pas.
Ben oui, vous êtes.
Mais justement, c'est là où est le quiproquo, c'est que j'existe pas, mais voilà. Et ils ont fait la même chose avec Hitler. J'ai vu ça, il a exposé au château de Blenheim en Angleterre, Hitler, dans une exposition où il y avait beaucoup d'œuvres, et j'ai regardé ça de près, j'ai dit « mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pareil ». Et le problème avec Hitler, c'est que le pape, il avait les yeux fermés, donc le scan, ça marche très bien. Mais Hitler, ça marche plus, parce qu'il faut mettre un regard. Et c'est là que ça foire. Quand j'ai vu le portrait d'Hitler à Blenheim, j'ai dit, bon, ça va pas, ça.
Mais alors, à vous entendre, Daniel Doué, le pape aujourd'hui, l'œuvre de Maurizio Catalan, c'est François Pinault qui en est le propriétaire, à ma connaissance. Il a votre pape à vous ou il en a un autre ?
Ben, il y a deux papes à moi et il en a un troisième qu'il a fait surmouler.
D'accord.
Donc, c'est
Donc il y en a plusieurs, donc des papes.
Mais il y en a trois.
Est-ce que vous vous rendez bien compte que l'art de Maurizio Catalan, comme celui de Jeff Koons d'ailleurs, de Damien Hirst, de Murakami, comme je l'ai dit, c'est un art de l'idée. Ils n'ont pas besoin de réaliser l'œuvre de leurs mains pour en être l'auteur. Si vous gagnez votre procès, tous les artisans, tous les sous-traitants à qui on fait appel les stars de l'art contemporain pour fabriquer leurs œuvres, qui se vendent effectivement des dizaines de millions de dollars, ils risquent de se retourner contre eux afin de revendiquer leur paternité, comme vous le faites. Et ils vont demander des indemnités aux galeristes, aux marchands. Ils vont attaquer les maisons de vente et les musées pour recel de contrefaçon. Vous vous rendez compte que de la pagaille que ça peut créer ?
Oui, mais c'est pas mon problème, moi. C'est pas mon problème. Après, ça déclenche un mouvement qui était latent. Et ils ont attendu qu'il y ait un mec comme moi qui donne un coup de pied dans la fourmilière pour dénoncer le système. Donc, s'il y en a d'autres qui suivent le chemin, bah tant pis. Tant mieux pour eux. Voilà, moi, je suis pas responsable. Hein.
Le verdict, ce sera le 8 juillet.
Oui.
Vous y croyez ?
Moi, je ne connais pas les tribunaux. C'est la première fois que je suis dans un tribunal pour une affaire comme ça. Ça a pris une importance à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis stupéfait de voir le raisonnement mondial que ça a. Maintenant, mon avocat, bon, il a l'air plutôt optimiste, mais bon, après, on ne sait pas. C'est le tribunal qui décide. Hein.
Merci, Daniel Druet, d'être venu sur Europe 1. On a maintenant rendez-vous avec Aubrey David-Chappie. Elle est historienne.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Aubrey David-Chappie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne. On s'est beaucoup félicité cette semaine qu'Emmanuel Macron ait nommé une femme à Matignon. On a fait comme si la France n'avait jamais été gouvernée par une femme, exception faite d'Édith Cresson, qui n'est restée que quelques mois Première ministre. Mais c'est oublié des reines franques, comme Brunehaut et Frédégonde au VIe siècle. Et puis surtout, toutes celles qui ont exercé la régence sur le royaume de France, alors que ce soit dans le désordre, hein, Blanche de Castille, Isabeau de Bazière, Jeanne de Navarre, Jeanne de Bourgogne, Louise de Savoie, Catherine de Médicis, Marie de Médicis, Anne d'Autriche ou Anne de France, l'une des moins connues, qui est morte il y a 500 ans exactement, hein, et à qui vous consacrez une biographie. C'est elle qui a, pour ainsi dire, inventé la régence, cette manière française de donner le pouvoir aux femmes.
Voilà, c'est ça. Anne de France, c'est une femme relativement peu connue. C'est la fille de Louis XI, la sœur de Charles VIII. Elle a vécu à un moment charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et elle est fille de roi, sœur de roi, mais elle n'est pas reine. Mais elle se retrouve au pouvoir et elle va inventer le pouvoir au féminin.
Oui, exactement. C'est ça qui est le plus frappant quand on lit votre livre. Donc, elle se retrouve effectivement parce que son frère est trop jeune pour régner. Il a 13 ans, elle se retrouve au pouvoir. Et il y a tout à inventer à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a très peu de femmes qui ont exercé véritablement le pouvoir avant elle, enfin, ou qui l'ont exercé sur une très longue durée, hormis Blanche de Castille, mais ça fait déjà quelques temps. Et donc, Anne de France est confrontée à une situation tout à fait inédite. Surtout, jamais aucune sœur de roi, aucune femme qui n'est pas reine, n'a eu le pouvoir. Donc en fait, c'est tout à fait nouveau. Elle doit tout imaginer, elle doit faire preuve d'un grand pragmatisme et elle s'en montre d'ailleurs tout à fait capable. Elle invente de multiples facettes de son pouvoir.
On va les voir, mais d'abord, ce qui est de fascinant chez elle, c'est qu'elle est considérée par ses contemporains comme une des femmes les plus puissantes de son époque et tous reconnaissent son autorité, sa finesse et son intelligence politique. Hein, parce que c'est pas tout d'être une femme au pouvoir, c'est pas une fin en soi. Il faut être une femme très intelligente au pouvoir.
Oui, c'est ça. C'est une femme qui est reconnue pour ses qualités. Elle a été reconnue d'abord par son père Louis XI, hein, qui l'a formée à la politique parce que très tôt, il a vu qu'il s'agissait d'un personnage particulièrement fin et intelligent. Et en effet, tous ses contemporains sont unanimes pour dire qu'elle se montre tout à fait capable de gouverner le royaume. C'est une femme tout à fait maîtresse dans l'art de gouverner.
Alors, elle va se retrouver face à des difficultés presque tout de suite. Hein. C'est l'aristocratie, évidemment, qui n'est pas très contente qu'elle soit au pouvoir. Mais est-ce qu'on lui reproche d'être une femme ? Est-ce que c'est la misogynie à ce moment-là ? Ou c'est tout simplement une querelle, comme il en arrivera avec la Fronde ?
Non, en fait, tout simplement, il y a des princes qui voudraient obtenir la régence et la tutelle du roi. Et donc, quand ils voient que les états généraux qui sont réunis en 1484 confèrent la tutelle du roi à Anne de France, ils sont absolument furieux. Donc, ils vont se mettre en guerre. Mais il est très, très peu reproché à Anne de France d'être une femme.
À fond, qu'est-ce qu'on reproche aux femmes ? Parce que selon la loi salique, les femmes ne peuvent pas, enfin ne pouvaient pas prétendre au trône. Elles ne pouvaient pas non plus transmettre la couronne à leur fils. Ça n'était pas de la misogynie. Qu'est-ce que c'était ? On considérait les femmes incapables de gouverner ?
Non, puisqu'en fait, on interdit aux femmes de transmettre la couronne. On ne leur interdit pas d'exercer le pouvoir. C'est toute c'est très délicat comme situation. Donc, en fait, elles ne peuvent pas transmettre la couronne, mais Anne de France n'est pas dans une situation où elle doit porter la couronne puisqu'elle est la sœur du roi. Rien n'empêche qu'elle exerce le pouvoir aux côtés de son frère. Rien du tout.
Et on respecte le pouvoir qu'elle exerce.
Elle va faire en sorte qu'il soit respecté. Elle va s'imposer véritablement par les armes, tout de même, au bout de 4 ans de guerre, mais elle va y parvenir. Et il y a même une chose assez extraordinaire, c'est que lorsque son frère meurt sans héritier... lorsque son frère Charles VIII meurt en 1498, certains ont pensé que peut-être elle pourrait hériter de la couronne.
Qu'est-ce qui s'y est opposé ?
Non, elle ne l'a pas voulu elle-même parce que je pense que comme c'était quelqu'un quand même qui respectait les lois fondamentales du royaume, eh bien elle ne l'a pas proposé, mais certains ont quand même pensé qu'elle le pourrait. Ce qui veut dire qu'elle avait réussi à s'imposer comme personnage hors du commun.
Aubrey David Chapier, vous expliquez que certains aspects de la politique au Moyen-Âge étaient considérés comme proprement féminins.
Oui. Alors, la diplomatie est parfois proprement féminine. Les femmes sont maîtresses dans l'art de négocier. On pense qu'elles utilisent l'éloquence bien mieux que les hommes, ce qu'on appelle la douce parole, si bien qu'elles sont chargées de recevoir les ambassadeurs, par exemple. Et puis, elle s'impose aussi grâce à la formation d'une cour féminine. C'est très important, hein, tout ce qui concerne les cérémonies. Et donc, elle s'impose parce qu'elles occupent la première place dans le protocole. Anne de France occupe longtemps cette première place, puisque la reine est enfant, donc ne participe pas aux cérémonies. Anne de France s'entoure d'une cour de dames et de demoiselles qui sont là en fait pour rehausser son prestige, rehausser sa dignité. Donc là, il y a véritablement, oui, une part de féminin dans la manière dont elle gouverne.
C'est drôle parce que tout ça, on l'a complètement oublié ou occulté peut-être.
Oui, aujourd'hui, c'est sûr que les femmes gouvernent comme finalement un petit peu comme le font les hommes, alors qu'Anne de France, lorsqu'elle gouverne le royaume, elle est à la fois un petit peu comme un roi, mais aussi comme la reine. Elle est les deux à la fois.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a oublié ce pouvoir des femmes.
Ah oui, on a oublié.
Surtout au Moyen-Âge. On n'a pas du tout l'idée qu'au Moyen-Âge, en France, les femmes avaient du pouvoir.
Elles avaient réellement du pouvoir. En effet, ça a été assez oublié. Le 19e est passé par là. Il a donné l'image d'un moment très misogyne, alors que le Moyen-Âge n'est pas une période misogyne. Les femmes ont toute leur place, évidemment, surtout dans l'aristocratie, mais pas seulement. Beaucoup travaillent et on pense que les femmes ne travaillaient pas. Donc le Moyen-Âge, c'est une période assez faste finalement pour les femmes. Et Anne de France en est un exemple.
On fait une pause au Bré David Chapy, puis après vous allez nous expliquer comment elle invente ce pouvoir féminin.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Anne de France, gouverner au féminin à la Renaissance, ça vient de paraître chez Passé Composé. Anne de France est morte il y a 500 ans exactement, et cette année nous avons une femme première ministre, Aubrey David Chapy, vous êtes historienne, c'est vous donc qui signez cette biographie. Alors justement, il y a ce pouvoir qu'elle invente, ce pouvoir féminin, ce pouvoir au féminin. Qu'est-ce qu'on lui doit exactement, Anne de France ?
Alors Anne de France, ce qu'on lui doit, c'est qu'elle a beaucoup lu, notamment une certaine Christine de Pizan, qui était une théoricienne du politique du début du XVe siècle.
Et la première quasiment femme de lettres à vivre de sa plume.
C'est la première femme de lettres à avoir vécu de sa plume, en effet. Donc une femme tout à fait exceptionnelle, elle aussi, qui explique comment on gouverne avec prudence, avec sagesse, avec humilité. Et en fait, Anne de France reprend ces idées, mais elle les incarne. Et elle les met en pratique et elle rend possible en fait la naissance de la régence féminine, puisque la femme qui gouverne juste après elle, c'est Louise de Savoie, qu'elle a formée à la cour de France. Et Louise de Savoie devient en 1515 la première femme à porter le titre de régente de France. Et si Anne de France n'était pas passée avant elle, Louise de Savoie n'aurait certainement jamais été régente.
Et quels sont les modèles d'Anne de France, à part Christine de Pizan, hein, sont les princesses antiques
Alors, elle puise justement chez Christine de Pizan de très nombreux modèles. Alors, ce sont des princesses antiques, ce sont les Amazones, ce sont des femmes de la Bible, ce sont des femmes de la mythologie, ce sont d'autres princesses de la royauté, comme vous évoquiez tout à l'heure.
Les
reines Franques. Et puis, plus la reine Clotilde, bien sûr. Et plus récemment, on a l'image de Jeanne d'Arc.
Ah oui, ça aussi, ça compte.
Oui, ça compte aussi. Oui. D'ailleurs, Anne de France est comparée à Jeanne d'Arc.
Elle a inventé, dites-vous, une symbolique du pouvoir au féminin.
Oui, elle invente une symbolique au féminin parce que elle se veut une image de vertu. Elle veut incarner cette vertu que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette sagesse, cette prudence. Elle veut être un exemple pour toutes les femmes du royaume, non seulement les princesses, mais également toutes les femmes. Et donc, elle essaye d'être ce qu'on appelle un miroir de vertu.
En même temps, c'est une chef de guerre, hein, puisque quand la noblesse s'oppose à elle, au départ, elle y va.
Ah oui, elle n'est pas sur le théâtre des opérations, mais elle n'est pas loin, elle est aux côtés du roi, elle est avec son mari aussi,
et
Pierre de Beaujeu, c'est ça, futur duc de Bourbon, et c'est elle qui donne très probablement les grandes lignes stratégiques de la guerre contre la Bretagne, contre la Flandre et aussi contre les princes rebelles du royaume.
Quand on lit votre livre, Aubrey David Chapy, on a l'impression qu'elle noue des relations, Anne de France, avec les intellectuels, avec les artistes, avec le conseil, avec le parlement, et qu'elle est un peu la première, au fond, à socialiser de la sorte.
Oui, elle suit encore une fois les conseils de Christine de Pizan, qui dit qu'il faut sortir du cadre unique de la cour, et elle va tisser des liens, en effet, avec tous les membres des grandes institutions, du Parlement, de l'université. Elle tisse des liens avec, finalement, toute l'Europe, peut-on dire, aussi bien les hommes que les femmes. Elle est en lien avec tous les rois européens, c'est assez extraordinaire, tous les rois, mais aussi tous les princes, Laurent de Médicis, elle a mis Henri VII d'Angleterre sur le trône, et elle est aussi en lien avec toutes les grandes princesses.
C'est quand même étonnant qu'un personnage aussi fascinant, on l'ait complètement oublié.
Oui, finalement. Et en fait, c'est très probablement parce qu'elle a été la contemporaine d'Anne de Bretagne, qu'elle a également formé à devenir reine de France. Mais Anne de Bretagne a été reine. Et finalement, on se souvient certainement plus d'une reine que d'une simple princesse.
Et pourtant, Anne de Bretagne a eu beaucoup moins de pouvoir qu'Anne de France.
Ah oui! Et Anne de Bretagne, en effet, a eu beaucoup moins de pouvoir qu'elle, puisqu'elle était même sous sa coupe.
Oui, exactement.
Donc, c'est très paradoxal. Un personnage très paradoxal.
Elle va exercer aussi une influence artistique sur la Renaissance, qui commence à ce moment-là, aussi grande, peut-être même plus grande que François Ier.
Alors, Anne de France, c'est quelqu'un qui perçoit les nouveautés, visiblement, et qui les apprécie. Et donc, elle est fascinée, comme son frère Charles VIII, par l'art antique, par l'art qui vient d'Italie. Et donc, elle fait entrer la Renaissance, en fait, de tous les côtés, puisqu'elle convie à sa cour à la fois des artistes flamands, comme Jean Hay, un très grand peintre, et en même temps, elle va faire venir aussi d'Italie des hommes qui seront ses jardiniers, qui vont donc mettre en valeur ses jardins à moulins dans sa capitale ducale. Et donc, elle mêle les Italiens aux Flamands et elle fait entrer la Renaissance en France.
Merci, Aubrey David-Chappie. Il y a eu une exposition en plus de votre livre.
Oui, il y a une exposition qui se tient à Moulins, dans l'Allier, et qui la capitale des Bourbons, et qui a lieu jusqu'à la mi-septembre. Et on y trouve des œuvres autour d'Anne de France, bien sûr, qui viennent à la fois du Louvre, de la National Gallery, de la Wallace Collection, donc une exposition consacrée à Anne de France pour le 500e anniversaire donc de sa mort.
Et votre livre, Anne de France, gouvernée au féminin, Renaissance, ça vient de paraître chez Passé Composé, un livre que pourrait lire, que devraient lire toutes les femmes qui font de la politique aujourd'hui.
Oui, et puis aussi tous les hommes, puisque c'est un exemple véritablement de bon gouvernement.
Merci. On se retrouve juste après avec un ténor, Emiliano González Toro.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Emiliano González Toro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ténor et chef d'orchestre à la tête de l'ensemble I Gemelli. Ça veut dire quoi, I Gemelli ?
Ça veut dire les Gémeaux et les Jumeaux. On a monté cet ensemble avec ma femme qui est aussi Gémeaux. Moi, je suis né du 28 mai, elle du 7 juin. J'ai failli dire une fausse date. Et plein de nos musiciens sont Gémeaux. Puis en fait, on porte des projets autour de la gémellité tout le temps.
En effet, c'est le cas aujourd'hui. Alors, je précise que vous êtes suisse d'origine chilienne et vous sortez A Room for Mirrors, un disque à deux voix. Des jumeaux, donc, avec Zachary Wilder. Lui aussi est ténor. C'est un disque dédié à l'opéra baroque italien du XVIIe siècle. On en écoute tout de suite un extrait. Emiliano González Toro, ça peut sembler étrange pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est Claudio Monteverdi qui a inventé le duo de ténor.
Absolument, tout à fait. Compositeur immense du XVIIe siècle en Italie, lui-même ténor. Il était multi-instrumentiste, il a beaucoup travaillé. C'est lui on dit que c'est lui qui a écrit et créé le premier opéra. C'est pas tout à fait vrai.
L'Orfeo.
Il y a eu d'autres compositeurs avant lui, comme Peri ou même Caccini, qui ont fait d'autres expériences, mais un peu comme tous ces grands génies comme Bach ou Mozart. C'est un peu lui qui a synthétisé tout ce qui se faisait de mieux à cette époque pour créer ce style qui est né d'après cet opéra. Et effectivement, il a beaucoup écrit pour le ténor parce qu'à l'époque, c'était la voix reine. On n'était pas baryton ou ténor ou soprano. En fait, il y avait où on est soprano, où on est ténor, où on était basse. Et en général, on était toujours catalogué dans ces trois catégories. Et soprano, souvent, c'était des garçons, puisque ça s'utilisait beaucoup à l'époque. Les femmes n'avaient pas vraiment le droit de chanter. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup écrit à l'époque pour le ténor.
Et on peut dire aussi que le génie de Monteverdi plane sur toute la musique vocale à l'époque, en Italie. On va entendre un autre extrait de votre album, C'est une chaconne, de Grégory.
Ouais.
Benvenuti,
Emiliano González Toro, être ténor à cette époque-là, on est donc au XVIIe siècle, hein, ça ne consiste pas à chanter haut et fort comme aujourd'hui.
Non, ça n'a rien à voir. La grande virtuosité de l'époque, elle tient sur comment est-ce qu'on exprime un texte. C'est pour ça que ça s'appelait à l'époque « recitar cantando », on récitait en chantant. Et en fait, il s'agissait de pouvoir dire un texte, une poésie ou toute une pièce de théâtre à l'époque, en chantant et en étant le plus éloquent possible, en faisant passer toutes les émotions, en sachant arrêter un peu le temps, en accélérant les choses, en donnant du drame. Et en fait, c'était comme ça qu'on montrait comment on avait compris le texte et comment on voulait l'exprimer. Et c'est ce qui faisait qu'on était un grand virtuose. Il y avait aussi l'autre aspect qui était la longueur du souffle. Il y a un exemple dans l'Orfeo, notamment dans l'aria qui s'appelle l'aria centrale, qui évidemment maintenant mon son nom m'échappe, ça va me dire en 5 secondes. Mais en fait, il y a une phrase hyper longue où vraiment toute la grande virtuosité, c'est réussir à faire toute cette phrase sans respirer. Et en fait, on se faisait.
Ce que vous faites un peu là.
Ouais, c'est ça, j'essaye tout à fait. C'était pour donner l'exemple, mais. Il y a vraiment cet aspect à l'époque où déjà la technique vocale, elle restait sur des voies naturelles, que ce soit dans le grave ou dans l'aigu. Et la performance intrinsèque de passer par-dessus des grands orchestres, ça n'existait pas vraiment.
À l'époque, on fait de la musique baroque. Hein, la spezzatura qui est propre à la musique baroque, qu'est-ce que c'est exactement? Et là, on voit bien que vous en avez besoin dans ce
disque. Ah oui, la spezzatura, c'est un concept quasiment aristotélicien qui consiste à montrer une espèce de nonchalance dans ce qu'on fait,
faire en sorte
que ça ait l'air ultra simple, que ça ait l'air très facile. Il y a un exemple qui me vient très concret, c'est les spectacles des grands comiques ou des grands comédiens qui font des one-man shows. La plupart du temps, on a l'impression qu'ils improvisent, ils se baladent, ça a l'air super cool. Et en fait, tout est hyper travaillé, ou comme les talk shows à l'américaine, vous voyez, ils arrivent et le présentateur et le comédien qui vient faire sa promo, souvent ils ont déjà préparé plein de trucs en amont.
Ah, tous les gags ont été écrits.
C'est ça, tout est écrit, tout est planifié, tout est répété. Et au moment où ils le jouent, en fait, on a l'impression qu'ils sont juste en train de se marrer, que ça avance bien. Et en fait, la spezzatura, aujourd'hui, c'est ça. C'est faire énormément de travail en amont pour tout baliser, tout préparer. Et au final, tout a l'air hyper cool, simple et comme si de rien n'était.
On va donner tout de suite un exemple avec « C'est l'aura spira » de Frescobaldi. « L'aura spira tutta vezzosa, la fresca rosa ridente sta, la siepe umbrosa di bei smeraldi, destivi calli ti morno. Balli, balli, niente venite, ninfe granite, fior di belga, or che si chiaro il vago fonte, dall'alto monte al mar sen va. On compare souvent la musique baroque avec le jazz. Vous trouvez que c'est justifié ?
Totalement, à 100%. Je fais souvent cette analogie parce que la musique baroque, contrairement à ce qui s'est beaucoup fait ces 50 dernières années, ça ne se dirige pas. Le concept du chef au clavier ou le concept du chef tout court, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif dans l'histoire de la musique, quasiment du 19e siècle. Et la musique,
au moment où il y a les grands orchestres.
Exactement, hein. Ou même où il y a le Stravaille en fosse, au moment où cette musique-là de Monteverdi et consorts est écrite, la fosse n'existe même pas. Donc en fait, les gens jouent les uns à côté des autres tout le temps. Donc
ils improvisent,
il y a des grilles, on travaille sur une ligne de basse continue qui a juste une ligne de basse avec des chiffres, exactement comme une grille de jazz, et une mélodie qui est écrite par-dessus, qui est en plus ornée à chaque fois qu'on la rejoue, exactement comme du jazz. Et de la même façon, en fait, il s'agit de trouver cette espèce de stabilité à l'intérieur du continuo ou de toute l'équipe, par exemple, de la contrebasse et de la percussion. Et par-dessus, le soliste, il va commencer à improviser, sortir de rythme, faire des choses. Mais il y a toujours une base qui permet à tout le monde de se raccrocher. Et dans la musique baroque, c'est la même chose.
Un dernier exemple, je crois que c'est une chanson à boire, une chanson un peu grivoise. Ouais. Hein, c'est Damigella tutta bella.
C'est ça, Damigella tutta bella qui dit « Bon, je viens de me faire larguer, vas-y, c'est moi un verre, ça va me faire oublier tout ça. »
Damigella tutta bella, versa versa quel bel vino. Damigella tutta bella, versa versa quel bel vino. Fa che cada la rugiada distillata di rubino.
l'acqua che cada la rugiada distillata.
Dernier extrait de A Room of Mirrors, le disque que vous sortez, Emiliano González Toro, avec Zachary Wilder. On vous retrouve sur scène bientôt ?
Tout bientôt, il y a différents types de programmes. On se revoit la semaine prochaine à l'Arsenal de Metz pour un autre programme qui est Latin Jazz, cette
très
fois-ci.
Belle salle, hein, l'Arsenal.
Très belle salle, l'Arsenal. Et puis cet été, on va le jouer à Vilnius, ce programme A Room of Mirrors. Et aussi le 4 août au Château de la Motte, à côté de Saint-Tropez. On se réjouit, c'est un festival absolument magnifique.
Merci Emiliano González Toro.
Merci Frédéric Tadi.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Qui sont vos invités ?
Bonjour cher Frédéric. Deux invités pour le grand rendez-vous, le ministre de l'Europe Clément Beaune et le président du Sénat Gérard Larcher. Pour les interroger, je serai entouré de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia. Bonne émission.